Ursule Mirouette, deuxième partie, quatrième fichier. Depuis le jour où la plus infâme calomnie avait souillé sa vie, Ursule, en proie à l'une de ces maladies inexplicables, dont le siège est dans l'âme, marchait rapidement à la mort. D'une pâleur mortelle, disant à de rares intervalles des paroles faibles et lentes, jetant des regards d'une douceur tiède, tout en elle, même son front, trahissait une pensée dévorante. Elle la croyait tombée, cette idéale couronne de fleurs chastes, que de tout temps les peuples ont voulu voir sur la tête des vierges. Elle écoutait, dans le vide et dans le silence, les propos déshonorants, les commentaires malicieux, les rires de la petite ville. Cette charge était trop pesante pour elle, et son innocence avait trop de délicatesse pour survivre à une pareille meurtrissure. Elle ne se plaignait plus. Elle gardait un douloureux sourire sur les lèvres, et ses yeux se levaient souvent vers le ciel, comme pour appeler de l'injustice des hommes au souverain des anges. Quand Goupil entra dans Nemours, Ursule avait été descendue de sa chambre au rez-de-chaussée sur les bras de la Bougival et du médecin de Nemours. Il s'agissait d'un événement immense. Après avoir appris que cette jeune fille se mourait comme une hermine, encore qu'elle fût moins atteinte dans son honneur que ne le fut Clarisse Harlowe, Madame de Portenduère allait venir la voir et la consoler. Le spectacle de son fils, qui pendant toute la nuit précédente avait parlé de se tuer, fit plier la vieille bretonne. Madame de Portenduère trouva d'ailleurs de sa dignité de rendre le courage à une jeune fille si pure, et vit dans sa visite un contrepoids à tout le mal fait par la petite ville. Son opinion, sans doute plus puissante que celle de la foule, consacrerait le pouvoir de la noblesse. Cette démarche, annoncée par l'abbé Chaperon, avait opéré chez Ursule une révolution et rendit de l'espoir au médecin désespéré, qui parlait de demander une consultation au plus illustre docteur de Paris. On avait mis Ursule sur la bergère de son tuteur, et tel était le caractère de sa beauté, que dans son deuil et dans sa souffrance, elle parut plus belle qu'en aucun moment de sa vie heureuse. Quand Savinien, donnant le bras à sa mère, se montra, la jeune malade reprit de belles couleurs. « Ne vous levez pas, mon enfant !» dit la vieille dame d'une voix impérative. Quelque malade et faible que je sois moi-même, j'ai voulu vous venir voir pour vous dire ma pensée sur ce qui se passe. Je vous estime comme la plus pure, la plus sainte et la plus charmante fille du Gâtinais, et je vous trouve digne de faire le bonheur d'un gentilhomme. » D'abord, Ursule ne put répondre. Elle prit les mains desséchées de la mère de Savinien et les baisa en y laissant des pleurs. « Ah, madame, répondit-elle d'une voix affaiblie, je n'aurais jamais eu la hardiesse de penser à m'élever au-dessus de ma condition si je n'y avais été encouragée par des promesses, et mon seul titre était une affection sans bornes. Mais on a trouvé les moyens de me séparer à jamais de celui que j'aime. On m'a rendu indigne de lui. Jamais, dit-elle avec un éclat dans la voix qui frappa douloureusement les spectateurs. Jamais je ne consentirai à donner à qui que ce soit une main avilie, une réputation flétrie. J'aimais trop, je puis le dire en l'état où je suis. J'aime une créature presque autant que Dieu. Aussi, Dieu... Allons, allons, ma petite, ne calomniez pas Dieu. Allons, ma fille, dit la vieille dame en faisant un effort. « Ne vous exagérez pas la portée d'une infâme plaisanterie à laquelle personne ne croit. Moi, je vous le promets, vous vivrez et vous serez heureuse. »« Tu seras heureuse, » dit Savinien en se mettant à genoux devant Ursule et lui baisant les mains. « Ma mère t'a nommée ma fille. »« Assez, » dit le médecin qui vint prendre le pouls de sa malade. « Ne la tuez pas de plaisir. » En ce moment, Goupil, qui trouva la porte de l'allée entr'ouverte, poussa celle du petit salon et montra son horrible face animée par les pensées de vengeance qui avaient fleuri dans son cœur pendant le chemin. « Monsieur de Portenduère, » dit-il d'une voix qui ressemblait au sifflement d'une vipère forcée dans son trou. « Que voulez-vous ? » répondit Savinien en se relevant. « J'ai deux mots à vous dire. » Savinien sortit dans l'allée, et Goupil la mena dans la petite cour. « Jurez-moi, par la vie d'Ursule que vous aimez, et par votre honneur de gentilhomme auquel vous tenez, de faire qu'il soit entre nous comme si je ne vous avais rien dit de ce que je vais vous dire, et je vais vous éclairer sur la cause des persécutions dirigées contre Mademoiselle Mirouette. Pourrais-je les faire cesser ? Oui. Pourrais-je me venger ? Sur l'auteur, oui, mais sur l'instrument, non. Pourquoi ? Mais l'instrument, c'est moi. » Savinien pâlit. « Je viens d'entrevoir Ursule, » reprit le clerc. « Ursule ? » dit le gentilhomme en regardant Goupil. « Mademoiselle Mirouette !» reprit Goupil, que l'accent de Savinien rendit respectueux. « Et je voudrais racheter de tout mon sang ce qui a été fait. Je me repens. Quand vous me tueriez en duel ou autrement, à quoi vous servirez mon sang ? Le boiriez-vous ? Il vous empoisonnerait en ce moment. » La froide raison de cet homme et la curiosité domptèrent les bouillonnements du sang de Savinien. Il le regardait fixement, d'un air qui fit baisser les yeux à ce bossu manqué. « Qui donc t'a mis en œuvre ? » dit le jeune homme. « Jurez-vous ? » « Tu veux qu'il ne te soit rien fait ? » « Je veux que vous et Mademoiselle Mirouette vous me pardonniez. » « Elle te pardonnera. Mais moi, jamais. » « Enfin, vous oublierez. » Quelle terrible puissance a le raisonnement appuyé sur l'intérêt. Deux hommes, dont l'un voulait déchirer l'autre, étaient là dans une petite cour, à deux doigts l'un de l'autre, obligés de se parler, réunis par un même sentiment. « Je te pardonnerai, mais je n'oublierai pas. »« Rien de fait, » dit froidement Goupil. Savinien perdit patience. Il appliqua sur cette face un soufflet qui retentit dans la cour, qui faillit renverser Goupil, et après lequel il chancela lui-même. « Je n'ai que ce que je mérite, » dit Goupil. « J'ai fait une bêtise. Je vous croyais plus noble que vous ne l'êtes. Vous avez abusé d'un avantage que je vous donnais. Vous êtes en ma puissance maintenant, » dit-il en lançant un regard haineux à Savinien. « Vous êtes un assassin !» dit le gentilhomme. « Pas plus que le couteau n'est le meurtrier, » répliqua Goupil. « Je vous demande pardon, » dit Savinien. « Vous êtes-vous assez vengé ? » dit Goupil avec une féroce ironie. « En resterez-vous là ? » ?»« Pardon, et oublie réciproque, » reprit Savinien. « Votre main ? » dit le clerc en tendant la sienne au gentilhomme. « La voici, » répondit Savinien en dévorant cette honte par amour pour Ursule. « Mais parlez, qui vous poussait ?» Goupil regardait pour ainsi dire les deux plateaux, où pesait d'un côté le soufflet de Savinien, de l'autre sa haine contre Minoret. Il resta deux secondes indécis. Mais enfin une voix lui cria « Tu seras notaire !» Et il répondit « Pardon et oubli !» « Oui, de part et d'autre, monsieur, en serrant la main du gentilhomme. »« Qui donc persécute Ursule ?» fit Savinien. « Minoret. Il aurait voulu la voir enterrée. Pourquoi ? Je ne le sais pas. Mais nous en chercherons la raison. Ne me mêlez point à tout ceci. Je ne pourrai plus rien pour vous si l'on se défiait de moi. Au lieu d'attaquer Ursule, je la défendrai. Au lieu de servir Minoret, je tâcherai de déjouer ses plans. Je ne vis que pour le ruiner, pour le détruire, et je le foulerai aux pieds. Je danserai sur son cadavre. Je me ferai de ses os un jeu de dominos. Demain, sur toutes les murailles de Nemours, de Fontainebleau, du Rouvre, on lira au crayon rouge « Minoret est un voleur ». Oh, je le ferai, nom de... non, éclaté comme un mortier. Maintenant, nous sommes alliés par une indiscrétion. Eh bien, si vous le voulez, je vais me mettre à genoux devant Mademoiselle Mirouette, lui déclarer que je maudis la passion insensée qui me poussait à la tuer. Je la supplierai de me pardonner. Ça lui fera du bien. Le juge de paix et le curé sont là, ces deux témoins suffisent. Mais M. Bongrand s'engagera sur l'honneur à ne pas me nuire dans ma carrière. J'ai maintenant une carrière. « Attendez un moment, » répondit Savinien tout étourdi par cette révélation. « Ursule, mon enfant, » dit-il en entrant au salon, « l'auteur de tous vos maux a horreur de son ouvrage, se repent et veut vous demander pardon en présence de ces messieurs, à la condition que tout sera oublié. »«
Comment ? Goupil ?»
dirent à la fois le curé, le juge de paix et le médecin.
« Gardez-lui le secret !»
fit Ursule en levant un doigt à ses lèvres. Goupil entendit cette parole, vit le mouvement d'Ursule et se sentit ému.
« Mademoiselle, dit-il d'un ton pénétré, je voudrais maintenant que tout Nemours pût m'entendre, vous avouant qu'une fatale passion a égaré ma tête et m'a suggéré des crimes punissables par le blâme des honnêtes gens. Ce que je dis là, je le répéterai partout, en déplorant le mal produit par de mauvaises plaisanteries, mais qui vous auront servi peut-être à hâter votre bonheur, » dit-il avec un peu de malice en se relevant, « puisque je vois ici Madame de Portenduère. »
« C'est très bien, Goupil, » dit le curé. « Mademoiselle vous a pardonné, mais vous ne devez jamais oublier que vous avez failli devenir un assassin. »
« Monsieur Bongrand, » reprit Goupil en s'adressant au juge de paix, « je vais traiter ce soir avec le cœur de son étude. J'espère que cette réparation ne me nuira pas dans votre esprit et que vous appuierez ma demande auprès du parquet et du ministère. »
Le juge de paix fit une pensive inclination de tête et Goupil sortit pour aller traiter de la meilleure des deux études d'huissier à Nemours. Chacun resta chez Ursule et s'appliqua pendant cette soirée à faire renaître le calme et la tranquillité dans son âme, où la satisfaction que le clerc lui avait donnée opérait déjà des changements.
« Tout Nemours saura cela !» disait Bongrand.
« Vous voyez, mon enfant, que Dieu ne vous en voulait point !» disait le curé. Minoret revint assez tard du Rouvre et dîna tard. Vers 9 heures, à la tombée du jour, il était dans son pavillon chinois, digérant son dîner auprès de sa femme, avec laquelle il faisait des projets pour l'avenir de Désiré. Désiré s'était bien rangé depuis qu'il appartenait à la magistrature. Il travaillait, il y avait chance de le voir succéder au procureur du roi de Fontainebleau, qui, disait-on, passait à Melun. Il fallait lui chercher une femme, une fille pauvre appartenant à une vieille et noble famille. Il pourrait alors arriver à la magistrature de Paris. Peut-être pourrait-il le faire élire député de Fontainebleau, où Zélie était d'avis d'aller s'établir l'hiver, après avoir habité le Rouvre pendant la belle saison. En s'applaudissant intérieurement d'avoir tout arrangé pour le mieux, Minoret ne pensait plus à Ursule au moment même où le drame, si niaisement ouvert par lui, se nouait d'une façon terrible.
« Monsieur de Portenduère est là qui veut vous parler !»
vint dire Cabirolle.
« Faites entrer !» répondit Zélie.
Les ombres du crépuscule empêchèrent Madame Minoret d'apercevoir la pâleur subite de son mari, qui frissonna en entendant les bottes de Savinien craquant sur le parquet de la galerie où jadis était la bibliothèque du docteur. Un vague pressentiment de malheur courait dans les veines du spoliateur. Savinien parut, resta debout, garda son chapeau sur la tête, sa canne à la main, ses mains croisées sur la poitrine, immobile devant les deux époux.
« Je viens savoir, monsieur et madame Minoret, les raisons que vous avez eues pour tourmenter d'une manière infâme une jeune fille qui est, au-dessus de toute la ville de Nemours, ma future épouse. Pourquoi vous avez essayé de flétrir son honneur? Pourquoi vous vouliez sa mort?
et pourquoi vous l'avez livré aux insultes d'un goupil ? Répondez.
Êtes-vous drôle, monsieur Savinien ? Dit Zélie, de venir nous demander les raisons d'une chose qui nous semble inexplicable. Je me soucie d'Ursule comme de l'an 40. Depuis la mort de l'oncle Minoret, je n'y ai jamais plus pensé qu'à ma première chemise. Je n'ai pas soufflé mot d'elle à Goupil. Encore un singulier drôle, à qui je ne confierai pas les intérêts de mon chien. Eh bien, répondras-tu, Minoret ? Veux-tu te laisser manquer par monsieur et accuser d'infamie qui sont au-dessous de toi ? Comme si un homme qui a 48 000 livres de rente en fond de terre autour d'un château digne d'un prince descendait à de pareilles sottises. Lève-toi donc, que tu es là comme une chiffe.
Je ne sais pas ce que monsieur veut dire, répondit enfin Minoret de sa petite voix, dont le tremblement fut d'autant plus facile à remarquer qu'elle était claire.
Quelle raison aurais-je de persécuter cette petite ? J'ai dit peut-être à Goupil combien j'étais contrarié de la voir à Nemours. Mon fils Désiré s'en amourachait, et je ne la lui voulais point pour femme. Voilà.
Goupil m'a tout avoué, monsieur Minoret. Il y eut un moment de silence, mais terrible, pendant lequel les trois personnages s'examinèrent. Zélie avait vu, dans la grosse figure de son colosse, un mouvement nerveux.
Quoique vous ne soyez que des insectes, je veux tirer de vous une vengeance éclatante, et je saurai la prendre, reprit le gentilhomme. Ce n'est pas à vous, homme de 67 ans, que je demanderai raison des insultes faites à mademoiselle Mirouette, mais à votre fils. La première fois que monsieur Minoret fils mettra les pieds à Nemours, nous nous rencontrerons. Il faudra bien qu'il se batte avec moi, et il se battra, ou il sera si bien déshonoré qu'il ne se présentera jamais nulle part. S'il ne vient pas à Nemours, j'irai à Fontainebleau, moi. J'aurai satisfaction. Il ne sera pas dit que vous aurez lâchement essayé de déshonorer une pauvre jeune fille sans défense.
Mais les calomnies d'un goupil ne sont... dit Minoret.
Voulez-vous, s'écria Savinien en l'interrompant, que je vous mette face à face avec lui? Croyez-moi, n'ébruitez pas l'affaire. Elle est entre vous, Goupil et moi. Laissez-la comme elle est, et Dieu la décidera dans le duel que je ferai l'honneur de proposer à votre fils.
Mais cela ne se passera pas comme ça, s'écria Zélie.
Ah, vous croyez que je laisserai Désiré se battre avec vous? Avec un ancien marin qui fait métier de tirer l'épée et le pistolet. Si vous avez à vous plaindre de Minoret, voilà Minoret. Prenez Minoret. Battez-vous avec Minoret. Mais mon garçon, qui de votre aveu est innocent de tout cela, en porterait la peine. Vous auriez auparavant un chien de ma chienne dans les jambes, mon petit monsieur. Allons, Minoret, tu restes là tout hébété comme un grand serin. Tu es chez toi, et tu laisses monsieur son chapeau sur la tête devant ta femme. Vous allez, mon petit monsieur, commencer par détaler. Charbonnier et maître chez lui. Je ne sais pas ce que vous voulez avec vos bibus, mais tournez-moi les talons. Et si vous touchez à Désiré, vous aurez affaire à moi, vous et votre pécore d'Ursule.
Et elle sonna vivement en appelant ses gens. « Songez bien à ce que je vous ai dit, » répéta Savinien, qui, sans se soucier de la tirade de Zélie, sortit en laissant cette épée de Damoclès suspendue au-dessus du couple.
« Ah, ça, Minoret !» dit Zélie à son mari. « M'expliqueras-tu ce que cela signifie ? Un jeune homme ne vient pas sans motif dans une maison bourgeoise faire ce bacchanal sterling et demander le sang d'un fils de famille ?»
C'est quelque tour de ce vilain singe de Goupil, à qui j'avais promis de l'aider à se faire notaire s'il me procurait à bon compte le Rouvre. Je lui ai donné 10%, 20 000 francs en lettres de change, et il n'est sans doute pas content.
Oui, mais quelle raison aurait-il eu auparavant de machiner des sérénades et des infamies contre Ursule?
Il la voulait pour femme.
Une fille sans le sou? Lui? La chatte! Tiens, Minoret, tu me lâches des bêtises, et tu es trop bête naturellement pour les faire prendre, mon fils. Il y a là-dessous quelque chose, et tu me le diras. »
« Il n'y a rien. »«
Il n'y a rien. Et moi, je te dis que tu mens, et nous allons voir. »
« Veux-tu me laisser tranquille ?
Je ferai jaser ce venin à deux pattes de goupil, et tu n'en seras pas le bon marchand. »
« Comme tu voudras. »
« Je sais bien que cela sera comme je voudrais. Et ce que je veux, surtout, c'est qu'on ne touche pas à Désiré. S'il lui arrivait malheur, vois-tu, je ferais un coup qui m'enverrait sur l'échafaud. »
« Désiré !
Mais, et tu ne te remues pas plus que ça ?»
Une querelle ainsi commencée entre Minoret et sa femme ne devait pas se terminer sans de longs déchirements intérieurs. Ainsi, le sot spoliateur apercevait sa lutte avec lui-même et avec Ursule, agrandie par sa faute et compliquée d'un nouveau, d'un terrible adversaire. Le lendemain, quand il sortit pour aller trouver Goupil, en pensant l'apaiser à force d'argent, il lut sur les murailles « Minoret est un voleur ». Tous ceux qu'il rencontra le plaignirent en lui demandant à lui-même quel était l'auteur de cette publication anonyme, et chacun lui pardonna les entortillages de ses réponses en songeant à sa nullité. Les sots recueillent plus d'avantages de leur faiblesse que les gens d'esprit n'en obtiennent de leur force. On regarde sans l'aider un grand homme luttant contre le sort, et l'on commandite un épicier qui fera faillite, car on se croit supérieur en protégeant un imbécile, et l'on est fâché de n'être que l'égal d'un homme de génie. Un homme d'esprit eût été perdu s'il avait balbutié, comme Minoret, d'absurdes réponses d'un air effaré. Zélie et ses domestiques effacèrent l'inscription vengeresse partout où elle se trouvait, mais elle resta sur la conscience de Minoret. Quoique Goupil eût échangé la veille sa parole avec l'huissier, il se refusa, très impudemment, à réaliser son traité. Mon cher Lecœur, j'ai pu, voyez-vous, acheter la charge de Monsieur Dionis et suis en position de vous faire vendre à d'autres. Rengainez votre traité. Ce n'est que deux carrés de papier timbrés de perdu. Voici 70 centimes. Lecœur craignait trop Goupil pour se plaindre.
Tout Nemours apprit aussitôt que Minoret avait donné sa garantie à Dionis pour faciliter à Goupil l'acquisition de sa charge. Le futur notaire écrivit à Savinien une lettre pour démentir ses aveux relativement à Minoret, en disant au jeune noble que sa nouvelle position, que la législation adoptée par la Cour suprême et son respect pour la justice lui défendaient de se battre. Il prévenait d'ailleurs le gentilhomme de se bien comporter avec lui désormais, car il savait admirablement tirer la savate. Et à sa première agression, il se promettait de lui casser la jambe. Les murs de Nemours ne parlèrent plus. Mais la querelle entre Minoret et sa femme subsistait, et Savinien gardait un farouche silence. Le mariage de Mademoiselle Massin, l'aînée, avec le futur notaire, était, 10 jours après ces événements, à l'état de rumeur publique. Mademoiselle Massin avait 80 000 francs, et sa laideur, pour elle. Goupil avait ses difformités et sa charge. Cette union parut donc, et probable, et convenable. Deux inconnus cachés saisirent Goupil dans la rue, à minuit, au moment où il sortait de chez Massin, lui donnèrent des coups de bâton, et disparurent. Goupil garda le plus profond silence sur cette scène de nuit et démentit une vieille femme qui croyait l'avoir reconnue en regardant par sa croisée. Ces grands petits événements furent étudiés par le juge de paix, qui reconnut à Goupil un pouvoir mystérieux sur Minoret et se promit d'en deviner la cause. Quoique l'opinion publique de la petite ville eût reconnu la parfaite innocence d'Ursule, Ursule se rétablissait lentement. Dans cet état de prostration corporelle qui laissait l'âme et l'esprit libres, elle devint le théâtre de phénomènes dont les effets furent d'ailleurs terribles et de nature à occuper la science, si la science avait été mise dans une pareille confidence. 10 jours après la visite de Madame de Portenduère, Ursule subit un rêve qui présenta les caractères d'une vision surnaturelle, autant par les faits moraux que par les circonstances, pour ainsi dire, physiques. Feu Minoret, son parrain, lui apparut et lui fit signe de venir avec lui. Elle s'habilla, le suivit au milieu des ténèbres jusque dans la maison de la rue des Bourgeois, où elle retrouva les moindres choses comme elles étaient le jour de la mort de son parrain. Le vieillard portait les vêtements qu'il avait sur lui la veille de sa mort, sa figure était pâle, ses mouvements ne rendaient aucun son. Néanmoins, Ursule entendit parfaitement sa voix, quoique faible, et comme répétée par un écho lointain. Le docteur amena sa pupille jusque dans le cabinet du pavillon chinois, où il lui fit soulever le marbre du petit meuble de boule, comme elle l'avait soulevé le jour de sa mort. Mais au lieu de n'y rien trouver, elle vit la lettre que son parrain lui recommandait d'aller y prendre. Elle la décacheta, la lut, ainsi que le testament, en faveur de Savinien. « Les caractères de l'écriture, dit-elle au curé, brillaient comme s'ils eussent été tracés avec les rayons du soleil. Ils me brûlaient les yeux. » Quand elle regarda son oncle pour le remercier, elle aperçut sur ses lèvres décolorées un sourire bienveillant. Puis, de sa voix faible et néanmoins claire, le spectre lui montra Minoret, écoutant la confidence dans le corridor, allant dévisser la serrure et prenant le paquet de papier. Puis, de sa main droite, il saisit sa pupille et la contraignit à marcher du pas des morts afin de suivre Minoret jusqu'à la poste. Ursule traversa la ville, entra à la poste, dans l'ancienne chambre de Zélie, où le spectre lui fit voir le spoliateur décachetant les lettres, les lisant et les brûlant. « Il n'a pu, dit Ursule, allumer que la troisième allumette pour brûler les papiers, et il en a enterré les vestiges dans les cendres. Après, mon parrain m'a ramené à notre maison, et j'ai vu Monsieur Minoret Levrault se glissant dans la bibliothèque, où il a pris, dans le troisième volume des Pandectes, les 3 inscriptions de chacune 12 000 livres de rente, ainsi que l'argent des arrérages en billets de banque. « Il est, m'a dit alors mon parrain, l'auteur des tourments qui t'ont mis à la porte du tombeau. Mais Dieu veut que tu sois heureuse. Tu ne mourras point encore. Tu épouseras Savinien. Si tu m'aimes, si tu aimes Savinien, tu redemanderas ta fortune à mon neveu. Jure-le-moi. » En resplendissant comme le Sauveur pendant sa transfiguration, le spectre de Minoret avait alors causé, dans l'état d'oppression où se trouvait Ursule, une telle violence à son âme qu'elle promit tout ce que voulait son oncle pour faire cesser le cauchemar. Elle s'était réveillée debout, au milieu de sa chambre, la face devant le portrait de son parrain qu'elle y avait mis depuis sa maladie. Elle se recoucha, se rendormit après une vive agitation et se souvint à son réveil de cette singulière vision, mais elle n'osa pas en parler. Son jugement exquis et sa délicatesse s'offensèrent de la révélation d'un rêve dont la fin et la cause étaient ses intérêts pécuniaires. Elle l'attribua naturellement à la causerie par laquelle la Bougival l'avait endormie et où il était question des libéralités de son parrain pour elle et des certitudes que conservait sa nourrice à cet égard. Mais ce rêve revint, avec des aggravations qui le lui rendirent excessivement redoutable. La seconde fois, la main glacée de son parrain se posa sur son épaule et lui causa la plus cruelle douleur, une sensation indéfinissable. « Il faut obéir aux morts, » disait-il d'une voix sépulcrale. Et des larmes, disait-elle, tombaient de ses yeux blancs et vides. La troisième fois, le mort la prit par ses longues nattes et lui fit voir Minoret causant avec Goupil et lui promettant de l'argent s'il emmenait Ursule à Sens. Ursule prit alors le parti d'avouer ses 3 rêves à l'abbé Chaperon. « Monsieur le curé, lui dit-elle un soir, croyez-vous que les morts puissent apparaître ? Mon enfant, l'histoire sacrée, l'histoire profane, l'histoire moderne offrent plusieurs témoignages à ce sujet. Mais l'Église n'en a jamais fait un article de foi, et quant à la science, en France, elle s'en moque. Que croyez-vous ?
La puissance de Dieu, mon enfant, est infinie.
Mon parrain vous a-t-il parlé de ces sortes de choses ?
Oui, souvent.
Il avait entièrement changé d'avis sur ces matières. Sa conversion date du jour, il me l'a dit 20 fois, où dans Paris, une femme vous a entendu à Nemours priant pour lui, et a vu le point rouge que vous aviez mis devant le jour de Saint-Savinien à votre almanach.
Ursule jeta un cri perçant qui fit frémir le prêtre. Elle se souvenait de la scène où, de retour à Nemours, son parrain avait lu dans son âme et s'était emparé de son almanach.
« Si cela est, dit-elle, mes visions sont possibles. Mon parrain m'est apparu comme Jésus à ses disciples. Il est dans une enveloppe de lumière jaune. Il parle. Je voulais vous prier de dire une messe pour le repos de son âme et implorer le secours de Dieu afin de faire cesser ces apparitions qui me brisent. »
Elle raconta dans les plus grands détails ses 3 rêves, en insistant sur la profonde vérité des faits, sur la liberté de ses mouvements, sur le somnambulisme d'un être intérieur qui, dit-elle, se déplaçait sous la conduite du spectre de son oncle avec une excessive facilité. Ce qui surprit étrangement le prêtre, à qui la véracité d'Ursule était connue, fut la description exacte de la chambre autrefois occupée par Zélie Minoret à son établissement de la Poste, où jamais Ursule n'avait pénétré, de laquelle enfin elle n'avait jamais entendu parler.
« Par quels moyens ces étranges apparitions peuvent-elles donc avoir lieu ? » dit Ursule. « Que pensait mon parrain ?»«
Votre parrain, mon enfant, procédait par hypothèse. Il avait reconnu la possibilité de l'existence d'un monde spirituel, d'un monde des idées. Si les idées sont une création propre à l'homme, si elles subsistent en vivant d'une vie qui leur soit propre, elles doivent avoir des formes insaisissables à nos sens extérieurs, mais perceptibles à nos sens intérieurs quand ils sont dans certaines conditions. Ainsi, les idées de votre parrain peuvent vous envelopper, et peut-être les avez-vous revêtues de son apparence. Puis, si Minoret a commis ses actions, elles se résolvent en idées, car toute action est le résultat de plusieurs idées. Or, si les idées se meuvent dans le monde spirituel, votre esprit a pu les apercevoir en y pénétrant. Ces phénomènes ne sont pas plus étranges que ceux de la mémoire, et ceux de la mémoire sont aussi surprenants et inexplicables que ceux du parfum des plantes, qui sont peut-être les idées de la plante.
Mon Dieu, combien vous agrandissez le monde! Mais entendre parler un mort, le voir marchant, agissant, est-ce donc possible ?
En Suède, Swedenborg, répondit l'abbé Chaperon, a prouvé jusqu'à l'évidence qu'il communiquait avec les morts.
Mais d'ailleurs, venez dans la bibliothèque et vous lirez dans la vie du fameux duc de Montmorency, décapité à Toulouse, et qui certes n'était pas homme à forger des sornettes, une aventure presque semblable à la vôtre, et qui 100 ans auparavant était arrivé à Cardan.
Ursule et le curé montèrent au premier étage, et le bonhomme lui chercha une petite édition in 12, imprimée à Paris en 1666, de l'histoire de Henri de Montmorency, écrite par un ecclésiastique contemporain et qui avait connu le prince.
« Lisez !» dit le curé en lui donnant le volume aux pages 175 et 176.
Votre parrain a souvent relu ce passage.
Et tenez, il s'y trouve encore de son tabac. Et il n'est plus, lui,
dit Ursule en prenant le livre pour lire ce passage. Le siège de Privas fut remarquable par la perte de quelques personnes de commandement. 2 maréchaux de camp y moururent, à savoir le marquis d'Uxelles, d'une blessure qu'il reçut aux approches, et le marquis de Porte, d'une mousquetade à la tête. Le jour qu'il fut tué, il devait être fait maréchal de France. Environ le moment de la mort du marquis, le duc de Montmorency, qui dormait dans sa tente, fut éveillé par une voix semblable à celle du marquis qui lui disait adieu. L'amour qu'il avait pour une personne qui lui était si proche fit qu'il attribua l'illusion de ce songe à la force de son imagination. Et le travail de la nuit, qu'il avait passé, selon sa coutume, à la tranchée, fut cause qu'il se rendormit sans aucune crainte. Mais la même voix l'interrompit encore un coup, et le fantôme qu'il n'avait vu qu'en dormant le contraignit de s'éveiller de nouveau et d'ouïr distinctement les mêmes mots qu'il avait prononcés avant de disparaître. Le duc se ressouvint alors qu'un jour qu'ils entendaient discourir le philosophe Pitard sur la séparation de l'âme d'avec le corps, ils s'étaient promis de se dire adieu l'un à l'autre si le premier qui viendrait à mourir en avait la permission. Sur quoi, ne pouvant s'empêcher de craindre la vérité de cet avertissement, il envoya promptement un de ses domestiques au quartier du marquis, qui était éloigné du sien. Mais, avant que son homme fût de retour, on vint le quérir de la part du roi, qui lui fit dire, par des personnes propres à le consoler, l'infortune qu'il avait appréhendée. Je laisse à disputer au docteur sur la raison de cet événement, que j'ai ouï plusieurs fois réciter au duc de Montmorency, et dont j'ai cru que la merveille et la vérité étaient dignes d'être rapportées.
« Mais alors, dit Ursule, que dois-je faire ?»«
Mon enfant, reprit le curé, il s'agit de choses si graves et qui vous sont si profitables que vous devez garder un silence absolu. Maintenant que vous m'avez confié les secrets de cette apparition, peut-être n'aura-t-elle plus lieu. D'ailleurs, vous êtes assez forte pour aller à l'église. Eh bien, demain, vous y viendrez remercier Dieu et le prier de donner le repos à votre parrain. Soyez d'ailleurs certaine que vous avez mis votre secret en des mains prudentes.
Si vous saviez en quelle terreur je m'endors, quel regard me lance mon parrain. La dernière fois, il s'accrochait à ma robe pour me voir plus longtemps. Je me suis réveillée, le visage tout en pleurs.
« Soyez en paix, il ne reviendra plus, » lui dit le curé. Sans perdre un instant, l'abbé Chaperon alla chez Minoret et le pria de lui accorder un moment d'audience dans le pavillon chinois en exigeant qu'il fût seul. « Personne ne peut-il nous écouter ?» dit l'abbé Chaperon à Minoret.
« Personne !» répondit Minoret.
« Monsieur, mon caractère doit vous être connu, » dit le bonhomme en attachant sur la figure de Minoret un regard doux mais attentif. « J'ai à vous parler de choses graves, extraordinaires, qui ne concernent que vous et sur lesquelles vous pouvez compter que je garderai le plus profond secret. Mais il m'est impossible de ne pas vous en instruire. Dans le temps que vivait votre oncle, il y avait là, » dit le prêtre en montrant la place du meuble, « un petit buffet de boules à dessus de marbre. » Minoret devint blême. « Et sous ce marbre, votre oncle avait mis une lettre pour sa pupille. » Le curé raconta, sans omettre la moindre circonstance, la propre conduite de Minoret à Minoret. L'ancien maître de poste, en entendant le détail des deux allumettes qui s'étaient éteintes sans s'allumer, sentit ses cheveux frétillant dans leur cuir chevelu.
Qui donc a pu forger de semblables sornettes ?
Dit-il au curé d'une voix étranglée quand le récit fut terminé. Le mort lui-même. Cette réponse causa un léger frémissement à Minoret, qui voyait aussi le docteur en rêve.
Dieu, monsieur le curé, est bien bon de faire des miracles pour moi,
reprit Minoret à qui son danger inspira la seule plaisanterie qu'il fit dans toute sa vie.
« Tout ce que Dieu fait est naturel, » répondit le prêtre. « Votre fantasmagorie ne m'effraie point, » dit le colosse en retrouvant un peu de sang-froid. « Je ne viens pas vous effrayer, mon cher monsieur, car jamais je ne parlerai de ceci à qui que ce soit au monde, » dit le curé. « Vous seul savez la vérité. C'est une affaire entre vous et Dieu. »
Voyons, monsieur le curé, me croyez-vous capable d'un si horrible abus de confiance ?
Je ne crois qu'aux crimes que l'on me confesse et desquels on se repent,
dit le prêtre d'un ton apostolique. Un crime ? S'écria Minoret.
Un crime affreux dans ses conséquences.
En quoi ?
En ce qu'il échappe à la justice humaine. Les crimes qui ne sont pas expiés ici-bas le seront dans l'autre vie. Dieu venge lui-même l'innocence.
Vous croyez que Dieu s'occupe de ces misères ?
S'il ne voyait pas les mondes dans tous leurs détails et d'un seul regard, comme vous faites tenir tout un paysage dans votre œil, il ne serait pas Dieu.
Monsieur le curé, vous me donnez votre parole que vous n'avez eu ces détails que de mon oncle ?
Votre oncle est apparu 3 fois à Ursule pour les lui répéter. Fatiguée de ses rêves, elle m'a confié ses révélations sous le secret et les trouve si dénuées de raison qu'elle n'en parlera jamais. Aussi pouvez-vous être tranquille à ce sujet.
Mais je suis tranquille de toute manière, monsieur Chaperon.
Je le souhaite, dit le vieux prêtre. Quand même je taxerais d'absurdité ces avertissements donnés en rêve, je trouverais encore nécessaire de vous les communiquer à cause de la singularité des détails. Vous êtes un honnête homme, et vous avez trop légalement gagné votre belle fortune pour vouloir y ajouter quelque chose par le vol. D'ailleurs, vous êtes un homme presque primitif, vous seriez trop tourmenté par les remords. Nous avons en nous un sentiment du juste, chez l'homme le plus civilisé comme chez le plus sauvage, qui ne nous permet pas de jouir en paix du bien mal acquis selon les lois de la société dans laquelle nous vivons. Car les sociétés bien constituées sont modelées sur l'ordre même imposé par Dieu au monde. Les sociétés sont en ceci d'origine divine. L'homme ne trouve pas d'idées, il n'invente pas de formes, il imite les rapports éternels qui l'enveloppent de toutes parts. Aussi, voyez ce qui arrive. Aucun criminel, allant à l'échafaud et pouvant emporter le secret de ses crimes, ne se laisse trancher la tête sans faire des aveux auxquels il est poussé par une mystérieuse puissance. Ainsi, mon cher monsieur Minoret, si vous êtes tranquille, je m'en vais heureux.
Minoret devint si stupide qu'il ne reconduisit pas le curé. Quand il se crut seul, il entra dans une colère d'homme sanguin. Il lui échappait les plus étranges blasphèmes et il donnait les noms les plus odieux à Ursule.
« Eh bien, que t'a-t-elle donc fait ? »
lui dit sa femme venue sur la pointe des pieds après avoir reconduit le curé. Pour la première et unique fois de sa vie, Minoret, enivré par la colère et poussé à bout par les questions réitérées de sa femme, la battit si bien qu'il fut obligé, quand elle tomba meurtrie, de la prendre dans ses bras et, tout honteux, de la coucher lui-même. Il fit une petite maladie. Le médecin fut obligé de le saigner 2 fois. Quand il fut sur pied, chacun, dans un temps donné, remarqua des changements chez lui. Minoret se promenait seul, et souvent il allait par les rues comme un homme inquiet. Il paraissait distrait en écoutant, lui qui n'avait jamais eu 2 idées dans la tête. Enfin, un soir, il aborda dans la grand-rue le juge de paix, qui sans doute venait chercher Ursule pour la conduire chez madame de Portenduère, où la partie de whist avait recommencé.
« Monsieur Bongrand, j'ai quelque chose d'assez important à dire à ma cousine, » fit-il en prenant le juge par le bras. « Et je suis assez aise que vous y soyez, vous pourrez lui servir de conseil. » Ils trouvèrent Ursule en train d'étudier. Elle se leva d'un air imposant et froid en voyant Minoret.
« Mon enfant, monsieur Minoret veut vous parler d'affaires, » dit le juge de paix. « Par parenthèse, n'oubliez pas de me donner votre inscription de rente. Je vais à Paris, je toucherai votre semestre et celui de la Bougival. »
« Ma cousine, » dit Minoret, « notre oncle vous avait accoutumé à plus d'aisance que vous n'en avez. »« On peut se trouver très heureux avec peu d'argent, dit-elle.
Je croyais que l'argent faciliterait votre bonheur, reprit Minoret, et je venais vous en offrir, par respect pour la mémoire de mon oncle.
Vous aviez une manière naturelle de la respecter, dit sévèrement Ursule. Vous pouviez laisser sa maison telle qu'elle était et me la vendre, car vous ne l'avez mise à si haut prix que dans l'espoir d'y trouver des trésors.
Enfin, dit Minoret, évidemment oppressé, si vous aviez 12 000 livres de rente, vous seriez en position de vous marier plus avantageusement.
Je ne les ai pas.
Mais si je vous les donnais, à la condition d'acheter une terre en Bretagne, dans le pays de Madame de Portenduère, qui consentirait alors à votre mariage avec son fils.
Monsieur Minoret, dit Ursule, je n'ai point de droit à une somme si considérable, et je ne saurais l'accepter de vous. Nous sommes très peu parents, et encore moins amis. J'ai trop subi déjà les malheurs de la calomnie pour vouloir donner lieu à la médisance. Qu'ai-je fait pour mériter cet argent? Sur quoi vous fonderiez-vous pour me faire un tel présent? Ces questions que j'ai le droit de vous adresser. Chacun y répondrait à sa manière. On y verrait une réparation de quelque dommage, et je ne veux point en avoir reçu. Votre oncle ne m'a point élevé dans des sentiments ignobles. On ne doit accepter que de ses amis. Je ne saurais avoir d'affection pour vous, et je serai nécessairement ingrate. Je ne veux pas m'exposer à manquer de reconnaissance.
Vous refusez ?
S'écria le colosse, à qui jamais l'idée ne serait venue en tête qu'on pouvait refuser une fortune.
Je refuse,
répéta Ursule.
Mais à quel titre offririez-vous une pareille fortune à mademoiselle ?
Demanda l'ancien avoué qui regarda fixement Minoret. Vous avez une idée ?
Avez-vous une idée ?
Eh bien, l'idée de la renvoyer de Nemours, afin que mon fils me laisse tranquille. Il est amoureux d'elle et veut l'épouser.
Eh bien, nous verrons cela,
répondit le juge de paix en raffermissant ses lunettes. Laissez-nous le temps de réfléchir. Il reconduisit Minoret jusque chez lui, tout en approuvant les sollicitudes que lui inspirait l'avenir de Désiré, blâmant un peu la précipitation d'Ursule et promettant de lui faire entendre raison. Aussitôt que Minoret fut rentré, Bongrand alla chez le maître de poste, lui emprunta son cabriolet et son cheval, courut jusqu'à Fontainebleau, demanda le substitut et apprit qu'il devait être chez le sous-préfet en soirée. Le juge de paix, ravi, s'y présenta. Désiré faisait une partie de whist avec la femme du procureur du roi, la femme du sous-préfet et le colonel du régiment en garnison.
« Je viens vous apprendre une heureuse nouvelle, » dit Monsieur Bongrand à Désiré.
« Vous aimez votre cousine Ursule Mirouette et votre père ne s'oppose plus à votre mariage. »
« J'aime Ursule Mirouette ? »
s'écria Désiré en riant.
« Où prenez-vous Ursule Mirouette ? Je me souviens d'avoir vu quelquefois chez Feu Minoret, mon archi-grand-oncle, cette petite fille, qui certes est d'une grande beauté, mais elle est d'une dévotion outrée, et si j'ai, comme tout le monde, rendu justice à ses charmes, je n'ai jamais eu la tête troublée pour cette blonde un peu fadasse. »
dit-il en souriant à la sous-préfète. La sous-préfète était une brune piquante, selon la vieille expression du dernier siècle.
« D'où venez-vous, mon cher monsieur Bongrand? Tout le monde sait que mon père est seigneur suzerain de 48 000 livres de rente en terre groupées autour de son château du Rouvre, et tout le monde me connaît 48 000 raisons perpétuelles et foncières pour ne pas aimer la pupille du parquet. Si j'épousais une fille de rien, « ces dames me prendraient pour un grand sot. »
Vous n'avez jamais tourmenté votre père au sujet d'Ursule ?»«
Jamais !»«
Vous l'entendez, monsieur le procureur du roi, » dit le juge de paix à ce magistrat qui les avait écoutés, et qui l'emmena dans une embrasure où ils restèrent environ un quart d'heure à causer. Une heure après, le juge de paix, de retour à Nemours chez Ursule, envoyez la Bougival chercher Minoret, qui vint aussitôt.
« Mademoiselle,
dit Bongrand à Minoret en le voyant entrer.
Accepte ?
Dit Minoret en interrompant.
Non, pas encore, répondit le juge en touchant à ses lunettes. Elle a eu des scrupules sur l'état de votre fils, car elle a été bien maltraitée à propos d'une passion semblable et connaît le prix de la tranquillité. Pouvez-vous lui jurer que votre fils est fou d'amour et que vous n'avez pas d'autre intention que celle de préserver notre chère Ursule de quelque nouvelle goupillerie ?
« Oh, je le jure !» fit Minoret.
« Halte là, papa Minoret !» dit le juge de paix en sortant une de ses mains du gousset de son pantalon pour frapper sur l'épaule de Minoret qui tressaillit. « Ne faites pas si légèrement un faux serment. »«
Un faux serment ?»«
Il est entre vous et votre fils, qui vient de jurer à Fontainebleau, chez le sous-préfet, en présence de 4 personnes et du procureur du roi, que jamais il n'avait songé à sa cousine Ursule Mirouette. Vous avez donc d'autres raisons pour lui offrir un si énorme capital. J'ai vu que vous aviez avancé des faits hasardés. Je suis allé moi-même à Fontainebleau. » Minoret resta tout ébahi de sa propre sottise.
« Mais il n'y a pas de mal, monsieur Bongrand, à offrir à une parente de rendre possible un mariage qui paraît devoir faire son bonheur, et de chercher des prétextes pour vaincre sa modestie. »
Minoret, à qui son danger venait de conseiller une excuse presque admissible, s'essuya le front où se voyaient de grosses gouttes de sueur.
« Vous connaissez les motifs de mon refus, » lui répondit Ursule. « Je vous prie de ne plus revenir ici. Sans que monsieur de Portenduère m'ait confié ses raisons, il a pour vous des sentiments de mépris, de haine même, qui me défendent de vous recevoir. Mon bonheur est toute ma fortune. Je ne rougis pas de l'avouer. Je ne veux donc point le compromettre, car monsieur de Portenduère n'attend plus que l'époque de ma majorité pour m'épouser. »
Le proverbe « monnaie fait tout » est bien menteur, dit le gros et grand Minoret en regardant le juge de paix, dont les yeux observateurs le gênaient beaucoup. Il se leva, sortit, mais dehors il trouva l'atmosphère aussi lourde que dans la petite salle.
« Il faut pourtant que cela finisse, » se dit-il en revenant chez lui.
« Votre inscription, ma petite ?» dit le juge de paix, assez étonné de la tranquillité d'Ursule après un événement si bizarre. En apportant son inscription et celle de la Bougival, Ursule trouva le juge de paix qui se promenait à grands pas.
« Vous n'avez aucune idée sur le but de la démarche de ce gros butor ? » dit-il.
« Aucune que je puisse dire, » répondit-elle. Monsieur Bongrand la regarda d'un air surpris.
« Nous avons alors la même idée, » répondit-il.
« Tenez, gardez les numéros de ces 2 inscriptions en cas que je les perde. Il faut toujours avoir ce soin-là. »
Bongrand écrivit alors lui-même sur une carte le numéro de l'inscription d'Ursule et celui de la nourrice.
« Adieu, mon enfant, je serai 2 jours absent, mais j'arriverai le 3e pour mon audience. »
Cette nuit même, Ursule eut une apparition qui se fit d'une façon étrange. Il lui sembla que son lit était dans le cimetière de Nemours et que la fosse de son oncle se trouvait au bas de son lit. La pierre blanche où elle lut l'inscription tumulaire lui causa le plus violent éblouissement en s'ouvrant comme la couverture oblongue d'un album. Elle jeta des cris perçants, mais le spectre du docteur se dressa lentement. Elle vit d'abord la tête jaune et les cheveux blancs qui brillaient environnés par une espèce d'auréole. Sous le front nu, les yeux étaient comme 2 rayons, et ils se levaient, comme attirés par une force supérieure. Ursule tremblait horriblement dans son enveloppe corporelle. Sa chair était comme un vêtement brûlant, et il y avait, dit-elle plus tard, comme une autre elle-même qui s'agitait au-dedans.
« Grâce !» dit-elle. « Mon parrain, grâce !»«
Il n'est plus temps, » dit-il d'une voix de mort selon l'inexplicable expression de la pauvre fille en racontant ce nouveau rêve au curé Chaperon. « Il a été averti. Il n'a pas tenu compte des avis. Les jours de son fils sont comptés. S'il n'a pas tout avoué, tout restitué dans quelque temps, il pleurera son fils, qui va mourir d'une mort horrible et violente. Qu'il le sache. » Le spectre montra une rangée de chiffres qui scintillèrent sur la muraille comme s'ils eussent été écrits avec du feu, et dit « Voilà son arrêt ». Quand son oncle se recoucha dans sa tombe, Ursule entendit le bruit de la pierre qui retombait, puis dans le lointain, un bruit étrange de chevaux et de cris d'hommes. Le lendemain, Ursule se trouva sans force. Elle ne put se lever, tant ce rêve l'avait accablée. Elle pria sa nourrice d'aller aussitôt chez l'abbé Chaperon et de le ramener. Le bonhomme vint après avoir dit sa messe. Mais il ne fut point surpris du récit d'Ursule. Il tenait la spoliation pour vraie et ne cherchait plus à s'expliquer la vie anormale de sa chère petite rêveuse. Il quitta promptement Ursule et courut chez Minoret. « Mon Dieu, monsieur le curé !» dit Zélie au prêtre. « Le caractère de mon mari s'est aigri, je ne sais ce qu'il a. Jusqu'à présent, c'était un enfant, mais depuis 2 mois, il n'est plus reconnaissable. Pour s'être emporté jusqu'à me frapper, moi qui suis si douce, il faut que cet homme-là soit changé du tout au tout. Vous le trouverez dans les roches, il y passe sa vie. À quoi faire ?» Malgré la chaleur, on était alors en septembre 1836, le prêtre passa le canal et prit par un sentier en apercevant Minoret assis au bas d'une des roches. « Vous êtes bien tourmenté, monsieur Minoret, » dit le prêtre en se montrant au coupable. « Vous m'appartenez, car vous souffrez. Malheureusement, je viens sans doute augmenter vos appréhensions. Ursule a eu cette nuit un rêve terrible. Votre oncle a soulevé la pierre de sa tombe, pour prophétiser des malheurs dans votre famille. Je ne viens certes pas vous faire peur, mais vous devez savoir si ce qu'il a dit... En vérité, monsieur le curé, je ne puis être tranquille nulle part, pas même sur ces roches. Je ne veux rien savoir de ce qui se passe dans l'autre monde. Je me retire, monsieur. Je n'ai pas fait ce chemin par la chaleur pour mon plaisir, dit le prêtre en s'essuyant le front. « Eh bien, qu'a-t-il dit, le bonhomme ?» demanda Minoret. « Vous êtes menacé de perdre votre fils. S'il a raconté des choses que vous seul saviez, c'est à faire frémir pour les choses que nous ne savons pas. Restituez, mon cher monsieur, restituez. Ne vous damnez pas pour un peu d'or. »« Mais restituez quoi ?» La fortune que le docteur destinait à Ursule. Vous avez pris ces 3 inscriptions, je le sais maintenant. Vous avez commencé par persécuter la pauvre fille, et vous finissez par lui offrir une fortune. Vous tombez dans le mensonge, vous vous entortillez dans ses dédales, et vous y faites des faux pas, à tout moment. Vous êtes maladroit, vous avez été mal servi par votre complice Goupil, qui se rit de vous. Dépêchez-vous, car vous êtes observé par des gens spirituels et perspicaces, par les amis d'Ursule. Restituez. Et si vous ne sauvez pas votre fils, qui peut-être n'est pas menacé, vous sauverez votre âme, vous sauverez votre honneur. Est-ce dans une société constituée comme la nôtre, est-ce dans une petite ville où vous avez tous les yeux les uns sur les autres et où tout se devine quand tout ne se sait pas, que vous pourrez sceller une fortune mal acquise ? Allons, mon cher enfant, « un homme innocent ne me laisserait pas parler si longtemps. »« Allez au diable !» s'écria Minoret. « Je ne sais pas ce que vous avez tous après moi. J'aime mieux ces pierres, elles me laissent tranquille. »« Adieu. Vous avez été prévenu par moi, mon cher monsieur, sans que ni la pauvre enfant ni moi nous ayons dit un seul mot à qui que ce soit au monde. Mais prenez garde, il est un homme qui a les yeux sur vous. » Dieu vous prenne en pitié.